Polysécur, épisode spécial, je suis avec Guillaume. Comment vas-tu?
Salut, moi ça va super bien, toi?
Très bien aussi. Tu as participé à la création du Hacklore, cette espèce de défaisage de mythes, mais qui a généré de la haine également sur Internet en même temps. On peut pas faire un ou l'autre, c'est un bundle de joie. Donc, on arrive avec ça. J'aimerais que tu commences notamment par expliquer la genèse de ce projet-là, que je trouve très intéressant parce que ça amène une discussion, mais bref.
Le projet que vous pouvez trouver à hacklore.org, donc hacklore, L-O-R-E.org, il y a une lettre, puis dans le fond, je ne vais pas vous lire la lettre parce que ce serait trop long, mais l'idée de Bob Lord qui a créé ce projet-là, avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé, c'était que on est un peu tanné d'entendre toujours les mêmes recommandations qui sont données aux gens, puis qui créent une quantité de recommandations que les gens qui connaissent pas la sécurité savent plus du tout où se retrouver, puis on leur fait perdre leur temps sur des choses qui vont pas vraiment améliorer leur sécurité ou réduire le risque. C'est comme par exemple le commun des mortels là, va pas avoir un Zero Day Bluetooth qui va être utilisé contre lui pour hacker son téléphone, mais la plupart des gens utilisent des écouteurs Bluetooth. Pour ceux qui sont sur la vidéo en ce moment, mes écouteurs sont Bluetooth. Bon, si j'ai un petit hacker Bluetooth l'autre bord qui peut nous écouter, c'est pas grave, ça va être public de toute façon. Mais ce qu'on dit pas, c'est si vous êtes vous travaillez dans la CIA, vous devriez utiliser des écouteurs Bluetooth. C'est ça qui est un peu perdu dans le message des fois. Donc, Bob a écrit la lettre qui a été signée par un paquet de CISO très connus ainsi que d'autres moins comme moi. Puis, tu sais, Bob, c'est un OG de San Francisco dans les années 90, travaillait chez Netscape, il était le premier CISO de Twitter. C'est lui qui est arrivé chez Yahoo puis qui s'est rendu compte, au moment où il travaillait là, qu'ils se sont rendus compte de la méga breach de Yahoo, puis après ça, il a travaillé pour le comité des démocrates, le DNC, après l'élection où il s'était fait rentrer dedans complètement par la Russie. Tu sais, fait qu'il en a vu des vraies menaces, puis il en a vu des vraies catastrophes. Donc, c'est à partir de là que le projet a été créé pour essayer de dire bon, on ne perdra plus le temps des gens sur des choses qui ne réduisent pas leur risque. Puis la réponse négative qu'on a eue, c'est toujours des gens qui regardent vraiment dans le détail super technique, puis ils vont dire ah, là, tout le monde qui ont signé ça, ils réalisent pas que ça leak des queries DNS pendant que ton captive portal, puis blablabla. Ben oui, on le sait, là, on n'est pas épais parce qu'on a signé la lettre, puis on dit pas que tout est parfait, puis qu'il y a rien qui est vulnérable dans les trucs qu'on dit qui sont du hacklore, donc une recommandation périmée, si on veut, qui a peut-être déjà été bonne un jour. Peut-être pas, mais qui définitivement ne l'est plus maintenant pour le commun des personnes. Fait que l'idée, c'est pas de dire il n'y a aucun risque avec le Wi-Fi, il n'y a aucun risque avec le Bluetooth, il n'y a aucun, mais c'est plutôt de dire pourquoi on perd notre temps puis on fait perdre de l'argent aux gens à s'abonner à des VPN plutôt que de leur dire d'utiliser des password managers, des passkeys, puis d'installer les updates sur leur device. En gros, c'est ça.
Ouais, puis j'aime bien comment tu frames les choses. C'est fait pour nos parents. C'est pas fait pour quelqu'un qui travaille à la CIA. Fait que tu travailles à la CIA puis tu utilises du Wi-Fi public, clairement, tu devrais mériter de perdre ta job. Mais, ou en tout cas, bref, mais peut-être pas dans le gouvernement actuel, c'est pas tout à fait
je pense que la CIA, en fait, c'est pas un bon exemple parce que des fois, t'as une notion de si tu veux te cacher dans la masse, c'est mieux de pas utiliser des trucs qui ont de l'air trop spécialisés. Mais tu sais, autrement dit, on fait pas des recommandations pour. Le réseau où vous allez échanger les clés privées de 72 milliards en Bitcoin. Là. C'est pour le commun des mortels sur leur laptop, leur smartphone. Puis, on sait qu'est-ce qui arrive à ces gens-là. Il y a du phishing. Ils vont mettre leur mot de passe à mauvaise place. Les comptes de banque se font vider. Il y a encore beaucoup de gens qui perdent des données parce qu'ils n'ont pas de backup. Il y a beaucoup de données qui sont perdues, du moins sur des clés USB qui sont pas chiffrées. Les gens ont des postes de travail qui sont pas nécessairement à jour, qui ont pas de endpoint protection dessus ou que ça fonctionne pas bien. Tu sais, c'est des trucs de base qui mènent à la majorité des problèmes que le commun des mortels ont. Puis honnêtement, là, tout ce qu'il y a là-dedans, je l'applique à moi-même dans ma vie personnelle. Je dirais peut-être quelqu'un qui est un journaliste en Arabie Saoudite, ben peut-être on faudrait pousser plus, là. C'est pas la même chose.
Mais pas dans la même game. Il y a plus de chances qu'il y ait un hack à travers un plugin dans Chrome que vous avez téléchargé parce que ça fait quelque chose de super trippant que vous fassiez voler vos affaires sur un Wi-Fi dit public.
Exactement.
Je vais te laisser commencer à les présenter. Justement, les deux, on en a un peu saupoudré, mais je vais te laisser être un peu plus formel.
Ouais, ben en gros, dans la lettre, puis au fil du temps, on va en rajouter, j'imagine, on a ben, les hacklore, donc ces avis périmés-là, puis on a aussi des recommandations. Donc, pour l'instant, on a 6 hacklore qui sont listés. Donc, les choses qu'on dit de pas faire, mais que ça a plus rapport. Donc, la première qu'on dit toujours aux gens, connectez-vous surtout pas sur du Wi-Fi public. La réalité, si on regarde les statistiques de Google, par exemple, en ce moment, il y a quelque chose comme 99 et plus pour cent du trafic sur le web qui est en TLS. Il y a de plus en plus de, ben, que ce soit du certificate pinning ou autre méthode similaire pour, disons, renforcer la sécurité des clés TLS un peu partout. Par défaut, une application, par exemple, sur iOS, ne peut pas se connecter en HTTP à moins d'avoir un entitlement qui spécifie, ben, je sais pas, je suis une app qui download des podcasts, il y a plein de podcasts qui sont pas en HTTPS, oui, tu sais, OK, c'est beau. Donc, il y a plus vraiment de besoin d'éviter le Wi-Fi public, à part quand il est slow puis il est poche, qui est pas mal toujours le cas de toute façon. Mais on a tellement fait peur aux gens avec le Wi-Fi public, puis tu sais, j'ai pas 14 ans, là, j'étais là à l'époque de Firesheep, j'étais là à l'époque du web qui se craquait en 2 secondes alors qu'il n'y avait pas de TLS. Puis oui, c'était une catastrophe. Firesheep, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'était une extension Firefox. Tu te mettais tu sniffais un Wi-Fi, puis dès que quelqu'un se loguait, par exemple, sur Facebook, oups, tu avais sa session authentifiée, puis tu pouvais la mettre dans ton browser, puis tu étais logué avec dans Facebook. Mais c'était comme ça, mais c'est plus comme ça. Puis surtout, depuis Snowden, l'utilisation de TLS a tellement augmenté. Mais pourtant, on recommande jamais aux gens, si tu vois une erreur de certificat, peut-être pas faire continuer, surtout si tu es dans un café ou des trucs comme ça, alors que la plupart des attaques utiliseraient ça parce qu'il n'y a pas de trafic intéressant qui se passe en HTTP pratiquement. C'est puis les autres raisons d'éviter le Wi-Fi public, ça serait si tu roules un paquet de services sur ton laptop qui sont vulnérables, des trucs comme ça. Presque tous les Wi-Fi publics qui serait assez gros pour, disons, avoir quelqu'un d'un peu curieux dans la gang, ont l'isolation entre les clients. Puis le commun des mortels va pas se déployer un Nginx sur son propre laptop. Quoique maintenant, avec Cloud Code, on sait on
ben peut-être avec un OpenCloud, on pourrait voir ça apparaître.
Effectivement, ouais, mais là, de toute façon, agents... avec OpenCloud, on n'a pas besoin de TCP pour hacker quand on peut juste envoyer un prompt. Donc, c'est ça. Donc, le Wi-Fi public, il n'y a pas de problème. Le deuxième, c'est de ne jamais scanner des codes QR. Puis là, oui, je le sais, il y a des places où des gens ont mis des faux codes QR par-dessus, je ne sais pas, des parcomètres, des trucs comme ça qui redirigeaient ailleurs. Mais la réalité des codes QR, c'est que, bon, est-ce que c'est pire qu'un URL? La plupart des gens ne connaissent pas comment un domaine fonctionne. Fait qu'ils ne savent pas que, tu sais, sous-domaine.microsoft.com, ben, ça appartient vraiment à Microsoft, mais microsoft.patate.com, non. Donc, pour la plupart des gens, ils ne sont pas vraiment capables de valider si une adresse est légitime de toute façon. Fait que le fait de rajouter un bit.ly ou de rajouter un code QR ou de rajouter les deux par-dessus, ça ne change vraiment pas grand-chose. Puis surtout dans un monde où on a maintenant des restaurants où il n'y a pas de menu, c'est un code QR sur la table, de dire « scannez jamais des codes QR, vous allez vous faire… » Les gens ont l'impression qu'en scannant le code QR, leur compte de banque va se faire vider. Puis c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Est-ce que tu pourrais faire une transaction de carte de crédit au mauvais restaurant parce que quelqu'un a mis un code QR? OK, oui, mais ce qui est plus important, c'est est-ce que tu t'es fait voler l'accès à ton compte de banque, des choses comme ça. Puis, ben, tu sais, installe l'app de Desjardins, Banque Nationale, RBC, ouvre l'app directement, puis les codes QR, ben, essaye d'être sûr qu'ils sont légitimes, mais sinon, la plupart des gens peuvent pas le vérifier. Même, tu sais, moi, par exemple, je reçois un email sur mon téléphone. L'application de base de mail sur un iPhone, très difficile de savoir un lien pointe vers où. Parce que tu commences à le toucher, là, le preview, l'autre, fait que là, hop, t'as cliqué dessus, tu sais. Bon, je suis pas vraiment un target pour des 0D de Safari, mais là, oui, j'ai loadé la destination. Fait que c'est tellement difficile qu'au final, c'est une recommandation que personne ne peut vraiment appliquer. Tu sais, si les gens ont besoin d'utiliser des codes QR, ils vont les utiliser. Puis c'est tout. Puis de toute façon, on a beaucoup d'autres problèmes avec des liens qui pourraient être dangereux par la pub, par exemple.
Par SMS, ce que tu mentionnes, c'est si ça fonctionne encore d'envoyer des liens par SMS, de spammer comme ça, puis les gens cliquent. Code QR, on est plus loin dans l'histoire, ça fait que ça change tout
de même. Ben, c'est ça. Mais le code QR, c'est qu'il peut avoir un peu. Tu veux faire un peu plus confiance parce qu'il est physiquement devant toi. Tu sais, par exemple, tu es à un parcomètre. Mais ça limite aussi de dire pour que quelqu'un fasse ce genre de fraude-là, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit physiquement, tu sais, dans le coin. Puis qu'ils soient prêts à aller le faire. Puis en général, là, il y a beaucoup de cybercrimes où la personne ne veut pas être proche du crime qui est commis. Tu sais, il y a question d'avoir aucune chance de se faire prendre. Fait que c'est pour ça, moi, ça m'inquiète pas du tout. Mais tu sais, de dire, nous, on dit, arrêtez de dire aux gens de jamais scanner un code QR. Est-ce qu'on dit, quand tu scannes un code QR puis tu te demandes ton numéro d'assurance sociale, mets-le? Non, c'est pas ça qu'on dit, tu sais.
Ben, c'est ça, il y a une question de contexte, puis on oublie d'enseigner aux gens qu'il y a un contexte quand tu scannes. Puis si tu scannes un code QR sur une chose, une borne de paiement de stationnement, et ça t'amène sur ton compte de banque, il y a peut-être lieu de se poser des questions puis de s'interroger sur la légitimité. Ben,
exactement. Plutôt, tu devrais jamais te loguer dans ton compte de banque si c'est pas toi qui es allé sur le site de la banque ou qui a ouvert l'app de la banque. Peu importe que ce soit un code QR, un lien par SMS. C'est la même chose que le phishing. Puis le problème, c'est que tu sais, là, on en liste 6, mais c'est beaucoup d'informations pour quelqu'un qui ne comprend pas nécessairement comment ces menaces-là pourraient s'appliquer. Donc, le prochain, ben, c'est vraiment un de mes préférés. C'est le fameux juice jacking. T'sais, on dit aux gens, chargez jamais vos téléphones ou vos laptops par un port USB public. Bon, premièrement, il n'y a aucun cas répertorié de juice jacking qui a affecté une personne normale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faudrait que ça soit très bien visé à une personne spécifique parce qu'on sait, premièrement, les systèmes d'exploitation mobile sont beaucoup plus sécuritaires maintenant que quand le terme juice jacking a été inventé, je pense comme en 2014 ou quelque chose comme ça, où à l'époque, connecter un téléphone. Tu sais, le premier iPhone n'était même pas. Il n'y avait aucun chiffrement. Tu te connectais à un USB, tu fais pas mal tout downloader. Il n'y avait pas de sécurité proprement dit. Les BlackBerry étaient un peu mieux dans ce temps-là. Tu sais, mais les Pocket PC puis iPhone, c'était catastrophique. Ensuite, bon, quand tu connectais un device USB, ça te demandait est-ce que tu fais confiance à cet ordinateur-là ou pas? Puis maintenant, bon, on va encore un peu plus loin en disant si le téléphone est verrouillé, par exemple, il n'y a juste aucune activation USB qui est possible, puis des trucs comme ça. Mais donc, on n'a jamais vu ça être utilisé contre une personne normale. C'est juste, on n'a aucune preuve que ça soit arrivé. Mais en plus, on sait qu'un Zero Day pour iOS ou Android, ça vaut super cher. Fait que là, si on est en train de me dire que dans les aéroports du monde, il y a des Zero Day iOS puis Android qui valent 1 million, qui traînent un peu partout, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui irait les chercher. Tu sais, si tu t'en sers pas à bon escient pour viser, tu sais, une personne très spécifique, tu vas le perdre, ton Zero Day, ça sera pas très long. Fait que moi, quand on me dit, charge jamais de l'aéroport parce que tu vas te faire hacker ton téléphone, ben, je dis, ben, on devrait peut-être plutôt dire aux gens, cliquez pas Trust this device quand vous utilisez un truc USB qui n'est pas à vous, mais que ce soit un port USB à l'aéroport ou que ce soit dans votre auto de location, juste parce que vous ne voulez pas que les contacts se synchronisent ou, tu sais, utiliser CarPlay, Android Auto au lieu de se synchroniser en Bluetooth, garder les données dans votre téléphone, ça, c'est une chose, mais dire les ports USB, non, c'est vraiment pas un problème, puis ça fait juste peur aux gens pour absolument aucune raison. Mais comme le Wi-Fi, les ports USB sont très souvent terribles et très lents dans les aéroports. Fait que, tu sais, je ne l'utilise pas, mais c'est pas parce qu'il me fait peur, c'est juste parce que j'ai pas le temps de niaiser.
De toute façon, ils marchent généralement même pas, ces ports USB-là. Ils sont brisés une fois sur deux. Si tu ne pognes pas un choc électrique au passage parce qu'il est mal grandé, c'est plus dangereux de te pogner un choc électrique.
C'est ça, c'est ouais, électriquement dangereux, mais qu'est-ce qui est cool pour ça, par exemple, maintenant que tu as de la charge par induction un peu partout. Ça a tendance à pas être super rapide, mais il marche, les gens les manipulent moins, tu déposes ton truc dessus. Donc, arrêtons de dire au monde de pas utiliser des ports USB pour charger leur téléphone. Parce que de toute façon, il y en a plein. Hein. Maintenant, il y a même les batteries qu'on peut emprunter à l'aéroport. Tu mets ta carte de crédit, ça te donne une batterie, tu peux charger, tu peux la traîner avec toi. Qui dit que ces batteries-là sont pas en train de hacker les téléphones de toute la planète, tu sais, si on pense vraiment comme ça, puis personne ne s'en est jamais rendu compte.
On est dans Mr. Robot, là, les deux pieds, là.
Ouais, mais c'est ça, mais personne n'a besoin de faire ça pour aller chercher ce qu'ils ont de besoin. Tu sais, le cybercrime n'est pas en train de faire faillite parce que les ports USB ne sont pas utilisés pour loader du malware dans tous les téléphones. Donc, la prochaine, ensuite, c'est éteindre le Bluetooth, NFC, tout ce qui serait sans fil. Est-ce que c'est impossible qu'il y ait des vulnérabilités en Bluetooth? Non, il y en a eu, puis il va continuer d'en avoir. Puis d'ailleurs, il y a quand même pas mal de ces vulnérabilités-là qui sont au moment du pairing. C'est-à-dire, j'ai des nouveaux écouteurs, j'ai mis en mode pairing. Si ça donne que t'es proche, tu vas peut-être être capable d'intercepter la clé, puis dans le futur, tu vas être capable de décrypter mes conversations. Puis ce genre de vulnérabilité-là, c'est extrêmement difficile à exploiter dans le sens qu'il faut que tu sois à côté de moi disons assez proche pour une antenne au moment où je fais mon pairing. Donc, pour le commun des mortels, c'est absolument pas un problème. Puis quand on leur dit mettez à off le Bluetooth, automatiquement, on perd de la crédibilité. La plupart des gens utilisent une souris Bluetooth, utilisent des écouteurs Bluetooth, utilisent des claviers Bluetooth. Puis la plupart de ces... Un clavier puis une souris Bluetooth, dans bien des cas, c'est pas mal plus sécuritaire qu'un clavier sans fil, cheap, avec une dongle RF super cheap, que bon, c'est encodé et non pas chiffré. Donc, on dit, utilisez pas le Bluetooth. Ben, OK, c'est beau, je vais utiliser mon clavier à 12$ Amazon Special, qui est probablement trois fois pire. Puis surtout, tout ce qui est la visibilité des téléphones avec le Bluetooth, encore une fois, c'était catastrophique. Il y a peut-être, je sais pas, 15 ans, c'était assez facile de mettre une antenne Bluetooth dans ta rue puis de voir toutes les autos qui passaient puis d'avoir les numéros de série de, ben en fait, disons, les MAC adresses des connexions Bluetooth. Les téléphones aussi étaient toujours visibles en Bluetooth. Mais maintenant, c'est plus le cas, ils sont plus visibles. Il y a de la rotation de clés. Tu sais, si vous n'êtes pas dans l'écran pour rajouter un nouveau device Bluetooth, le téléphone, il est pas nécessairement en train de broadcaster son existence. Mais c'était vraiment catastrophique en, je sais pas, 2010 à 2014. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, Bluetooth. Ouais,
c'est ça, comme tu le mentionnes, c'est des choses du passé. Puis comme le Wi-Fi, c'est des choses du passé. C'est des recommandations qui ont déjà été valides pendant un temps où la technologie n'était pas mature. Puis que de toute façon, on n'aurait jamais dû mettre ça dans les mains des gens de toute façon à ce moment-là. C'était dangereux. Puis on est resté avec ces recommandations-là depuis.
Ouais, c'était dangereux, mais encore une fois, quelque chose qui demande que quelqu'un soit localement proche de toi. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont l'exploiter, mais c'est pas nécessairement une catastrophe planétaire. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui revient à la mode des fois, comme par exemple, Kamala Harris a comme partie une nouvelle mode avec ses earbuds Apple avec le fil, puisqu'elle n'utilise rien qui est sans fil, pratiquement. En tout cas, définitivement rien qui est Bluetooth, mais tu sais, je pense que c'est pas le même genre de menace que Kamala Harris va subir versus moi quand je suis en train de magasiner à l'épicerie puis que j'écoute un podcast, là, tu sais.
On n'est pas tous dans la même zone. Puis même encore là, les technologies Bluetooth ont beaucoup avancé depuis. On n'est plus dans le même état où on était il y a 5, 10, 15 ans de ça. Où,
ouais. Mais comme tu dis, c'était catastrophique. Sauf qu'il y en a qui vont dire, oui, mais tu sais, tel device est encore catastrophique. Mais comme, c'est pas grave, on n'entend pas des gros problèmes dans le monde parce que les gens ont laissé leur Bluetooth à on. Tu sais, oui, il y a des choses drôles qui se passent. Comme je pense, il y a 2 ans, à DEF CON, il y a quelqu'un qui spammait le truc de setup d'un Apple TV là, qui te demande si tu veux le setuper avec ton téléphone. Ouais, tout le monde avait ça.
Mais c'est ça, mais c'est juste agaçant. Puis là, tu fais comme, j'ai juste fait, shit, j'ai oublié d'activer mon mode lockdown parce que je trouve DEF CON.
Ouais, non, mais c'est ça, mais exactement. Mais même encore là, ça a pas, je veux dire, c'était gossant. Oui, est-ce qu'il y a eu des denial of service justement sur des protocoles sans fil sur l'iPhone? Oui, il y en a eu. Puis c'est quoi? C'est l'année passée, là, les gens dans le train, des fois, se faisaient rebooter leur téléphone par quelqu'un qui faisait un paquet. Mais tu sais, encore là, pas un très gros problème. Ça, je pense que c'est une vulnérabilité dans AirDrop ou quelque chose comme ça. Le prochain qu'on a dans notre liste, dire aux gens d'effacer leurs cookies. Celui-là me sidère parce que c'est tellement niaiseux. Parce qu'en effaçant leurs cookies, on fait que les gens sont jamais logués in dans quoi que ce soit, qu'il n'y a pas de préférence qui suit, puis donc on les met dans un mode où ils sont toujours en train de retaper des mots de passe, rentrer dans... Tu sais, puis je comprends, là, ma session bancaire est pas mal moins longue que ma session pour aller lire 404 Media qui expire à peu près jamais. Puis c'est bien correct. Je veux pas qu'il expire puis que je suis obligé de rentrer. Puis les gens ont juste peur des cookies. Cookies, c'est quasiment comme si tu disais, c'est un virus. Puis on n'a jamais vraiment éduqué les gens sur les cookies third party, les cookies qui viennent vraiment du site où t'es, puis les browsers n'utilisent plus ça de la même façon. T'sais, si vous utilisez Safari, par exemple, je sais que par défaut, les third party cookies sont pas acceptés. Puis pour moi, à part pour faire du troubleshooting, déjà un site web où il y a quelque chose qui ne marche pas, puis je me dis, je vais juste flusher mes cookies puis réessayer. J'ai jamais fait ça dans les 10 dernières années pour des raisons de sécurité. Puis je comprends pas pourquoi on continue de dire aux gens. Puis c'est certain que c'est pas aidé par les fameux pop-up de consentement de cookies qui, encore une fois, ont 32 dark patterns pour que les gens fassent allow all. Mais c'est trop nuancé comme discussion. Dire oui, mais là, il y a des cookies qui sont utilisés pour des data brokers, puis il y a des cookies de performance, puis il y a des cookies pour te laisser choisir la couleur de ton background. Tu sais, il y en a trop, puis là, les gens pensent juste que tu sais, cookies are evil. Moi, je dirais utiliser un navigateur qui est à jour, puis le reste, peut-être un ad blocker, puis that's it. Là, tu sais, c'est pas nécessaire de paniquer sur les cookies.
Notamment, puis de toute façon, pour les gens qui ont peur du tracking, parce que c'est ça aussi, ils n'ont pas besoin de cookies pour traquer le navigateur. Le navigateur, il y a un footprint qui est unique dans tous les cas. Et de toute façon, c'est juste un moyen alternatif pour réussir.
À chaque fois qu'on limite un peu plus l'information qui sort des navigateurs, des extensions, des fonts qui sont installés dans ton navigateur, tout ça, il y a toujours une nouvelle façon de faire du fingerprinting. Fait que si c'était si simple que de bloquer les cookies, il n'y aurait pas un aussi grand écosystème de pub en ligne avec du bidding en real time puis des trucs comme ça. Puis les gens n'auraient pas l'impression que leur téléphone les écoute parce que les algorithmes sont tellement bons que ça leur parle de ce qu'ils ont... C'est ce qu'ils ont parlé avec leurs amis récemment. Fait que clairement, c'est pas super pratique. Puis le dernier qu'on a dans la liste, c'est faire de la rotation de mots de passe, tu sais, sans raison. En entreprise, on avait les fameuses expirations de mots de passe, mais on disait aussi, les mots de passe, c'est comme les bobettes, change-les souvent, là, ça n'a vraiment pas rapport parce que ce qui fait que les gens se font voler leur compte, c'est qu'ils utilisent le même mot de passe à 32 endroits, puis il y a un des 32 endroits qui se fait voler les mots de passe. Puis par la suite, tu sais, des botnets, let's go, on revend les logins, tout le monde essaie de se loguer partout avec cette combinaison-là, puis tout à coup, bah, oups, le mot de passe qu'il y avait sur LinkedIn en 2007 fonctionne aussi sur son compte Adobe ou un truc comme ça. Donc, changer les mots de passe, ça sert absolument à rien. Mais en fait, je dirais, les mots de passe, ça sert carrément pas à grand chose, mais d'échanger pour aucune raison. Encore une fois, on fait juste, tu sais, on donne une quantité de travail aux gens qui est énorme pour aucun bénéfice. T'sais, si je regarde dans mon password manager, vite comme ça, là, je sais pas, je te dirais, j'ai au moins 600 mots de passe dedans. Ça, c'est mon password manager personnel. Puis, ah, il n'y a pas de... je vois pas le count facilement, mais... Ah, 800. J'ai en haut de 800 mots de passe, OK? Fait que si je disais vraiment, je vais changer mes mots de passe une fois par année, à tous les jours, je serais en train de changer deux mots de passe, ce qui fait que je causerais plein de problèmes avec... je l'ai changé, je ne l'ai pas mis dans mon password manager, ou je l'ai changé, mais là, quelqu'un m'a appelé, j'ai oublié. Tu sais, c'est vraiment là une disruption qui a aucun sens. Mais celui-là, je pense que c'est celui sur lequel la plupart des gens s'entendent. On n'a pas reçu vraiment de...
Pas de haine sur celui-là.
Non, c'est
mais
pas...
Mais ça revient, mot de passe unique sur chaque site est plus important que de changer ses mots de passe à toutes les années, par exemple.
Oui, exactement, mais la façon la plus MFA. Facile... façon la plus facile de faire ça, c'est d'avoir un password manager. Donc, dans les choses qu'on dit de faire, c'est garder vos systèmes à jour, incluant les applications critiques comme les browsers. Activer le MFA, puis on dit s'il y a des passkeys, prenez ça. On rentre pas dans le détail de ah oui, mais tu sais, le SMS, on dit juste le SMS, c'est comme le moins bon des 2FA. Mais faut pas faire peur aux gens puis qu'ils disent ah non, la seule option que j'ai, c'est SMS 2FA, fait que j'en mettrai pas. Tu sais, on dit juste les passkeys, c'est le mieux, le SMS, c'est comme mieux que rien.
Puis encore là, ça vient encore dans les scénarios d'attaque, le scénario de menace. Ceux qui vont essayer à jacker le SMS, c'est sûrement pas pour toi puis pour moi qui vont le faire de toute façon.
Ben,
ou pour SMS, la madame au bureau. Là.
Ouais, ben SMS, là, c'est parce que je pense qu'il y a quand même une catégorie de gens qui sont peut-être plus à risque qu'ils pensent. Puis je dirais, c'est les gens qui sont beaucoup dans l'écosystème de la crypto-monnaie. T'sais, si vous parlez beaucoup du fait que ah j'ai fait 400 000 piastres avec mes bitcoins il y a deux mois, des trucs comme ça, oui, ça se pourrait que quelqu'un essaie de vous faire un sim swap pour rentrer dans votre compte Coinbase puis tout ça. Mais c'est assez spécifique à cet écosystème-là.
Oui, c'est ça, c'est très étroit parce qu'il n'y en a pas. Moi, ça m'arrivera probablement pas. Que je le fais pas non plus.
Non, mais
parce
toi,
que
t'as
que
pas fait 400 000 piastres la semaine passée en Bitcoin.
Non,
j'ai ça
pas
vaudrait
fait
même pas la peine.
Moi, je suis pas dans ce range-là de toute façon. Mais c'est ça, mais c'est des ranges très, très spécifiques dans des communautés. De quoi la crypto-monnaie est intéressante. Puis ça, c'est pas mes parents non plus. Là. C'est une catégorie de gens qui sont d'ailleurs très nerveux avec leur crypto-wallet de toute façon. Là.
Ah, ouais. Bon, en tout cas, sans commentaire.
On va souhaiter qu'ils soient assez nerveux pour mettre les mesures en place.
Ça, ben, disons, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont beaucoup plus nerveux que d'autres. Mais encore là, si on pourrait faire un épisode complet sur un crypto wallet, non seulement tu veux que jamais personne réussisse à te le voler, mais tu veux jamais le perdre non plus. Tu sais, fait que tu as quand même une difficulté de disponibilité versus confidentialité assez intéressante. Mais tout ça pour dire que les recommandations qu'on a, c'est des updates, MFA, utiliser des passphrases pour votre password manager, donc utiliser un password manager, puis c'est tout. Puis pour la plupart des gens, c'est suffisant. Tu sais, quelqu'un qui utilise, je sais pas, un Mac qui est à jour avec Chrome ou Safari qui est à jour, qui a mis l'authentification deux facteurs sur son compte Apple, Facebook, sa banque, parlant de des fois où tu n'auras pas le choix d'utiliser SMS parce que la plupart des banques ne supportent pas mieux. High Five Wealthsimple qui supporte maintenant les passkeys, mais qui ne supporte pas de désactiver les mots de passe. Fait who cares?
Desjardins aussi supporte les passkeys, étonnamment.
OK, cool. Fait que ça commence à se passer un peu. Donc, c'est ça. Les recommandations sont vraiment autour de, tu sais, garder vos trucs à jour, utiliser des longs mots de passe pour votre password manager où vous allez mettre des mots de passe différents. Puis là, on a aussi, tu sais, des recommandations dans la lettre pour les organisations ou les gens qui font des logiciels, mais c'est pas pour le public. Puis, originalement, Bob a sorti la lettre autour de Thanksgiving aux États-Unis parce que le but, c'était, on va donner un sujet de conversation aux gens qui va peut-être être un peu plus cordial que les autres sujets dont ils peuvent discuter à Thanksgiving aux États-Unis en 2025.
Effectivement.
C'est Hacklore en gros. Puis, je pense, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'entre nous, là, on pourrait rentrer dans le détail, tu sais, le Wi-Fi, OK, là, le DNS, puis là, comment ARP fonctionne, puis tu sais, rentrer vraiment ultra dans le détail, puis voir des scénarios fous. Puis d'ailleurs, quand on a posté la lettre, il y a quelqu'un qui a monté, je me souviens plus du nom du site, malheureusement, qui avait monté tout un site web qui te faisait un questionnaire sur tes connaissances réseau pour, à la fin, dire, mais t'es vraiment cave, tu dis qu'on peut utiliser du Wi-Fi public, mais t'es au courant de tous les problèmes qu'il y a. Non, c'est justement parce que je sais c'est quoi les problèmes, puis parce que je le sais que dans la vraie vie, ce n'est pas un problème. Je ne dis pas que la technologie est parfaite, mais je pense que le Wi-Fi, c'est probablement celui qui a généré le plus de discussions, disons. Puis je pense qu'en gros, c'est que les gens ont de la misère à départager différents threat models entre c'est quelqu'un qui fait juste être en vacances à l'hôtel puis qui utilise le Wi-Fi de l'hôtel pour regarder Netflix. Versus, je sais pas, là, tu sais, un scénario vraiment à risque très élevé. Fait que c'est de là que ça vient. Tu sais, je veux dire, de tous les gens avec qui on s'est obstiné un peu, il y en a pas un qui était, tu sais, qui avait tort techniquement, mais c'était toujours, mais tu comprends pas vraiment la conversation, si on veut. Tu sais, si tu le comprends, puis tu penses que tu es une cible, puis tu sais comment ça fonctionne, mais tu sais, go for it. Mais moi, personnellement, un des trucs que je change sur Mac puis iOS par un profil, il y a une setting qui permet de ne même pas pouvoir accepter un certificat qui a une erreur. Puis pourquoi je fais ça? Ben parce que ça me force à configurer tous mes trucs IoT comme il faut avec des vrais certificats, parce que sinon ma vie est une catastrophe. Puis aussi parce que quand j'arrive sur un captive portal ou quelque chose comme ça, je ne vais pas accidentellement dire OK dans mon app de mail ou quelque chose comme ça. Même si je le faisais, les chances qu'il y ait quelqu'un qui attendait que je fasse ça pour voir mon mot de passe sont super faibles. Mais tu sais, pourquoi se le faire demander quand on ne veut pas dire oui? Juste mieux de ne pas avoir le prompt. Puis malheureusement, cette option-là n'est pas disponible dans l'interface des settings. Il faut vraiment la pousser par un profil. Mais c'est plus ce genre de recommandations-là que je trouve qui est utile. Fait que pour ceux qui veulent voir des gens peut-être s'obstiner au sujet du Hacklore ou poser des questions pour partir une petite flame war. Je sais qu'il va y avoir un panel sur le hack lore à Secure.
Yes, Alexis de Rajonca a organisé un panel de ce côté-là. C'est moi qui vais animer. Et justement, je vais m'arranger pour mettre un peu plus de bisbilles à travers tout ce monde-là, justement, pour qu'on puisse parler ouvertement et plus techniquement aussi, puisque là, l'objectif, ouais, là, c'était pas de parler techniquement, là, c'était d'aller et de commencer à parler de nos différents modèles de menaces, qu'est-ce que c'est, pourquoi on est fâché, pourquoi notre chemise est en feu puis on veut juste tout détruire. Donc, effectivement, on va aborder ça de façon plus
précise. C'est ça, c'est parce que, tu sais, c'est sur un spectrum, là, tu sais, d'un côté, tu pourrais avoir la personne qui, ben oui, j'ai installé OpenClaw, je l'ai logué dans tout ce que j'ai dans ma vie, puis il roule 24/7 sur mon Mac. Puis de l'autre côté, tu as la personne qui va dire si tu utilises autre chose que Cubes OS, t'es reckless, là, tu sais. Puis il est comme un juste milieu entre les deux, je pense. Puis si on fait pas du bruit pour des choses inutiles, mais quand on aurait quelque chose d'utile à dire, il y a plus de chances que les gens nous écoutent. Fait que l'année passée, d'ailleurs, j'avais fait une présentation à Secure qui touchait sur certains de ces sujets-là, mais il n'y avait pas encore le site web de Hacklore. Puis ceux qui écoutent, qui sont intéressés, je vous inviterai à aller sur le site de Hacklore. Bob, il y a même une newsletter quand même assez intéressante. Puis on cherche aussi des nouveaux exemples de Hacklore si vous en avez. Ou des nouvelles implémentations comme cette semaine, j'ai remarqué que pour ceux qui connaissent Bromium, qui était une startup de sécurité de micro-segmentation, je pense autour de 2014-2016, quelque chose comme ça, qui est une compagnie qui faisait des micro-VM, un peu un genre de CubesOS commercial pour Windows, disons, là, qui gérait quelle application voit quoi, tout ça. Cette compagnie-là s'est fait racheter par HP. Maintenant, ça s'appelle HP Wolf Security. Puis une version commerciale qui est un peu l'ancien Bromium, là, qui laisse mettre des règles entre les apps et tout ça. Mais il y a même, c'est inclus sur certains laptops HP, même si tu te l'achètes par toi-même. Ce qui veut dire qu'en ce moment, si tu achètes un laptop HP quand même assez haut de gamme, des modèles entreprise, mais tu te l'achètes juste pour toi, mais quand tu vas brancher un chargeur USB qui n'est pas de marque HP, tu vas avoir des gros warnings qui vont dire comment c'est très dangereux d'utiliser un chargeur qui n'est pas de marque HP. Tu sais, tu l'as peut-être pas payé assez cher, puis c'est pas eux qui ont profité, donc tu étais très au risque. Mais Bromium, c'était un truc qui était surtout vendu au Department of Defense. C'était pas sur un laptop que tu as pris au Best Buy.
Oh, donc, ça, les fils se sont croisés. Il y a un gars en marketing qui fait hey, on a ça, on pourrait mettre ça partout, puis on aurait, comme les cartouches d'imprimante, on pourrait faire encore plus d'argent avec des choses.
Mais
que,
les cartouches d'imprimante, c'est un autre bon exemple. Je me souviens pas si c'est Epson ou HP ou Canon, mais ils utilisent la sécurité pour ça. Il y en avait un à un moment donné qui avait dit utiliser des cartouches d'autres marques, ça pourrait exploiter des vulnérabilités dans votre imprimante. Puis moi, je me dis ben, arrange ton imprimante, mais. Mais donc, il y a toujours comme des nouvelles implémentations comme ça du Hacklore. Fait que là, j'ai dit à Bob hier, justement, j'ai dit, bon, on a maintenant un Hacklore as code qui est que HP Wolf sur les laptops HP te chiale après si tu utilises un chargeur d'une autre marque parce que c'est dangereux. C'est donc, si vous avez d'autres exemples comme ça, oui, là, envoyez-moi-les sur LinkedIn ou sur Mastodon ou directement à Bob si vous êtes sur sa newsletter.
Cool. Ben, merci beaucoup. Très intéressant.
Ben, merci à toi, puis bonne chance avec le panel. Je pense que ça va brasser.
Ça va avoir du fun.